Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA 107.5. Ravi de vous retrouver en ce dimanche matin, c'est un peu notre créneau, le dimanche à 9h. Alors nous, au début, on s'imaginait ça, Pierrick, vous êtes dans votre cuisine, c'est dimanche matin, tranquille, et vous branchez la radio. Ou pas. Bon, en tout cas, épisode 19 de l'Étoile Polaire. Alors, je vais vous présenter le sommaire de cette émission. On va d'abord faire un petit point d'actualité sur les sondes martiennes. Ça bouge pas mal de ce côté-là. Et on va aussi parler du recrutement de l'Agence spatiale européenne qui, pour la première fois depuis longtemps, recrute des astronautes. Ensuite, je vous présenterai le ciel ce soir en version un petit peu rallongée. Cette semaine, il n'y aura pas de point d'astro. On va faire une petite pause sur la physique théorique. Après la pause musicale, on aura la chronique spatiale de Pierrick qui nous parlera de Pluton et de la sonde New Horizon. Et on terminera avec Rémi et sa rubrique d'astrophoto. Cette semaine, il nous parlera du guidage. Alors, voilà pour le sommaire. Avant de commencer l'émission, on va mentionner le fait que ça fait un an que l'étoile polaire existe. Hein, Pierrick ?
Eh ben ouais, ça c'est chouette. Et à ce propos, je voulais remercier RDOA pour ces moments de liberté qu'ils nous offrent et qui sont chers et précieux. Et voilà, merci RDOA de nous laisser faire un peu cette émission. Voilà.
Comme on le sent.
Ouais, comme on le sent.
Comme on a envie de la partager.
Voilà. Avec qui on veut. Ça, c'est quand même à mentionner.
Alors, on va commencer par le point d'actualité. Pierrick, c'est toi qui vas coller.
Ouais, le point d'actu. Donc en ce moment, il y a toutes les sondes martiennes qui arrivent sur Mars. Alors, il y a la sonde chinoise qui s'est mise en orbite autour de Mars. Et elle va rester en orbite 2-3 mois. Et elle est composée d'un atterrisseur et d'un rover. Enfin, il y a un orbiteur qui va rester en orbite. Après, il y a un atterrisseur qui va venir se poser sur Mars. Et après, il y a un petit robot, un petit rover qui va venir se balader, normalement. Donc ça, voilà, c'est en cours. En tout cas, elle est en orbite et pour l'instant, tout va bien. Il y a la sonde Hope des Émirats Arabes Unis qui, elle aussi, s'est mise en orbite et qui, tout va bien aussi. Et elle va étudier l'atmosphère et le climat martien. Et quand même, c'est à préciser, elle a été envoyée par un lanceur japonais. Donc voilà, c'est quand même une sonde émirati lancée par un lanceur japonais.
Moi, je n'avais jamais trop entendu parler des Émirats Arabes Unis en termes de spatial.
Bah, c'est une première.
J'ai l'impression que c'est un peu le début,
ouais. Puis de réussir une première mission sur Mars, les technologies s'améliorent. Et ensuite, il y a le robot Perseverance de la NASA, donc un rover aussi, une petite voiture qui va se poser sur Mars, qui, à l'heure où on enregistre l'émission, on ne sait pas encore si elle est bien arrivée sur le sol martien, donc... Quand vous l'entendrez dimanche, ben vous saurez si le rover Perseverance est encore en vie ou pas. Parce que les missions martiennes, c'est quand même 1 sur 2 qui foirent. Donc voilà. Et quand même, je voulais préciser, ce robot Perseverance, son but, en fait, c'est de ramener des échantillons. Alors, pas le robot Perseverance en lui-même, mais c'est toute une série de missions qui... Le robot Perseverance, lui, va collecter et stocker la matière martienne. Après, il y a une deuxième mission qui va avoir pour but de la mettre en orbite autour de Mars, puis une troisième mission qui va avoir pour but de faire un retour sur Terre. Donc là, c'est une mission de longue haleine qui n'a jamais été faite et qui est en cours. Ça va prendre 5, 10 ans, j'en sais rien. Mais voilà, c'est... Et sur le robot Perseverance aussi, ils vont tester, ils ont un petit hélicoptère qui va essayer de se déplacer au-dessus du rover pour analyser le sol et voir les déplacements du robot. Voilà, c'est quand même des avancées majeures dans l'exploration martienne. Et aussi, un autre point, le recrutement que l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, recrute des astronautes.
Ça va en faire rêver, ça.
Ouais, hein, ça fait depuis 2008, c'est ça qu'ils n'avaient pas...
A priori, ouais.
Ouais. Ils n'avaient pas recruté, donc Thomas Pesquet fait partie de
cette promotion.
Ouais. Et du coup, voilà, ils relancent un recrutement. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes en forme, si vous êtes chaud, vous pouvez aller tenter votre chance. Et voilà.
C'est quand même marrant, c'est deux nouvelles associées. Quoi. Il y a un côté, d'un coup, il y a plein de sondes autour de Mars, alors que bon, ça fait quand même des années qu'il ne se passe pas forcément grand-chose autour de ça. Et là, il y en a trois qui arrivent en même temps.
Ouais.
Et en même temps, on recrute des cosmonautes. Alors, on se pose la question. Non, mais enfin, voilà, pourquoi autant d'agitation sur Mars? Il y a quand même plein d'enjeux derrière. C'est sûr qu'il y a des enjeux scientifiques hein, en numéro 1, qui est quand même, c'est quand même la planète, on va dire, la plus proche de nous. Enfin, bon, ça dépend des moments, mais globalement, c'est pas encore trop loin, on reste dans le système solaire interne. Il n'y a pas les complications qu'on a sur Vénus avec une atmosphère terrible qui est composée beaucoup d'acide,
chaud,
il fait très chaud. Enfin, c'est très compliqué. Donc, vous voyez, tu avais parlé hein, des sondes vikings, je crois. Non, c'était quoi?
C'est vikings, c'est Mars, c'est les sondes russes Venera.
Ah, voilà. Ouais. Tu avais fait un petit passage là-dessus où on avait vu les difficultés énormes, où les sondes qui partaient, qui émettaient pendant quelques dizaines de secondes, et puis après, elles étaient bouffées par l'atmosphère. Enfin, voilà, donc on n'a pas tous ces problèmes-là. Donc, il y a quand même cette idée derrière d'aller voir un peu plus ce qui se passe sur Mars. Éventuellement, est-ce qu'on pourrait y installer une base? Est-ce que patati patata? Enfin, c'est quand même ça un peu qui se dessine derrière tout ça. Quoi.
C'est vrai.
Même si c'est que le premier pas, hein, on en est loin. Mais il y a quand même tout ça. Quoi.
Bah, le retour d'échantillons, je ne savais pas ça. Et c'est quand même c'est fort quand même s'ils y arrivent d'ici 5 ans, 5-10 ans selon les budgets, etc. C'est quand même un gros morceau. Quoi.
Ouais.
Voilà.
Ok. Eh ben, merci Pierrick.
Plaisir.
Pour cette actualité. Alors, on va passer au ciel ce soir. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur les constellations. Parce que c'est quand même ça, la porte d'entrée de l'observation du ciel. C'est de se repérer. Et de connaître un peu ces symboles qui sont dessinés sur la voûte céleste. Alors par contre, il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire que une fois que vous les avez appris, une fois que vous les avez dans l'œil, vous pouvez plus regarder le ciel en vous disant juste « Oh, les belles étoiles en fait !» Ça, c'est un truc, vous êtes toujours en train de regarder « Mais là, je suis où? C'est quoi cette constellation ?» Enfin voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore les constellations, profitez-en, parce que c'est un regard sur le ciel qui est assez neuf, vous pouvez vous imaginer vos propres constellations, et il y en a qui recoupent forcément en fait celles qui existent. Parce qu'il y a des symboles qui sont vraiment très clairs dans le ciel. Mais vous avez cette liberté de vous balader. Alors qu'une fois que vous avez appris les constellations, quelque part, vous êtes déjà dans une forme d'état d'esprit et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mais bon. Donc moi, je vous encourage quand même à vous repérer dans le ciel et à connaître un peu ces constellations. Le mieux, c'est d'avoir quand même une carte du ciel hein, à la base. Ça, c'est facile à trouver. Une petite carte du ciel en carton. Qui tourne et qui vous montre le ciel qui est visible en fonction de l'heure et de la date. Voilà, alors en ce moment, quand le soleil se couche, on a le carré de Pégase qui disparaît vraiment très très vite à l'ouest. Et en fait, on va être centré sur une zone, disons avec Cassiopée. Alors Cassiopée, c'est le W. Celui-là, alors W ou M, hein, selon le sens dans lequel vous le regardez. Ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui observent le ciel, même s'ils ne connaissent pas grand-chose, qui ont identifié ce W. Il est toujours il est autour du nord, en fait, puisqu'il est très proche de l'étoile polaire. Et il est symétrique avec la Grande Ourse. Alors, la Grande Ourse, en ce moment, elle apparaît...
Se dresse, ouais.
Elle se dresse, mais il faut attendre un petit peu la deuxième partie de nuit pour la voir quand même mieux.
Ouais.
Donc j'en parlerai après. Mais en tout cas, vous avez ce Cassiopée, et sous Cassiopée, vous avez trois étoiles alignées là, qui forment Persée. Ces trois étoiles-là sous le W, on les repère assez bien. Et vous avez ensuite, si vous descendez cette ligne de Persée, vous tombez sur le taureau. Donc là, il y a un V, il y a vraiment un V avec une des deux pointes qui est occupée par une étoile orangée relativement brillante qui s'appelle Aldébaran. Donc ça aussi, il est un peu tout seul ce V, vous ne pouvez pas réellement le rater. Donc là, il va être sud-est hein, à mesure que la nuit... sud-ouest, pardon, ouest, à mesure que la nuit va avancer, qu'il va aller se coucher.
Il passe le méridien assez tôt.
Ouais. Donc quand le soir tombe, en fait, vous êtes un peu plein phare sur cette région, Percé, le Taureau. Alors à côté de Sevé, vous avez ce petit amas des Pléiades, on en a déjà parlé, qui est extrêmement connu. Là aussi, c'est une tâche floue, c'est plus qu'une tâche floue, vous pouvez résoudre, on dirait une mini grande ours. Là, elle est à côté vraiment du V des Taureaux. Et puis vous avez le Cocher. Et en dessous, vous avez Orion, quand même, qui domine au sud, en ce moment-là, dès le coucher du soleil. Très belle constellation qui, clairement, même si vous ne connaissez pas les constellations, vous voyez Orion, vous vous dites, ça, c'est quelque chose. C'est obligé, ça forme vraiment une entité à part entière. Les trois étoiles alignées là, de la ceinture d'Orion, et juste en dessous, la grande nébuleuse d'Orion, que dans un bon ciel, on voit à l'œil nu ou en vision périphérique, hein, on voit très bien qu'il y a une tache là, qui a été photographiée je ne sais combien de fois, et qui est très très belle. Quoi. Donc quand même Orion qui domine le ciel du sud.
D'ailleurs, Rémi, ce sera la photo.
Ouais, cette photo là.
Ouais, on mettra cette photo pour illustrer cet épisode.
Ouais, c'est une pouponnière de nébuleuse. Ouais.
Et donc on distingue bien ces trois étoiles bien alignées et toute la nébuleuse autour. Que vous pouvez retrouver sur le site et sur l'épisode 19.
Ouais, voilà. Ce sera l'illustration de cet épisode dans le podcast. Donc je rappelle, le podcast sur le site rdwa.fr, vous allez dans émission thématique, l'étoile polaire, et là vous trouvez tous les podcasts. Donc là, quand vous avez cette région du ciel, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un certain nombre d'étoiles bien bien lumineuses qui forment vraiment des repères assez simples. C'est aussi pour ça que j'avais envie de développer un peu ce point d'astronomie, enfin le ciel ce soir autour des constellations. Donc quand vous avez Orion vraiment plein sud, si vous prolongez vers le bas les trois étoiles de la ceinture d'Orion, vous tombez sur l'étoile la plus brillante du ciel, qui est Sirius dans le grand chien. Alors Sirius, c'est une étoile qui était aussi vénérée par les Arabes, qu'on a repérée depuis longtemps. D'ailleurs, il y a une mention dans le Coran, il y a une mention de Sirius où on dit que Dieu est le seigneur de Sirius. Moi, j'étais tombé là-dessus, ça m'avait un peu interpellé. Je ne vais pas chercher qui que quoi, mais c'est écrit dedans. Donc voilà, Sirius, c'est une étoile qui a quand même inspiré les hommes depuis longtemps. Bon, c'est quand même la plus brillante du ciel, quoi. Et par contre, si vous allez au-dessus d'Orion et au-dessus de Sirius, vous tombez sur les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est, on va dire, une espèce de rectangle. Vous avez deux étoiles vraiment brillantes, qui sont l'extrémité, donc la plus éloignée d'Orion, du petit côté de ce rectangle, c'est Castor et Pollux. Là aussi, elles sont vraiment très très repérables. Et donc là, on est entre les Taureaux, les Gémeaux, et ben on est sur l'écliptique, hein, on est sur les constellations du Zodiac. Donc là, c'est ce ciel de début de nuit.
Et je vous invite aussi à prendre soin d'observer les couleurs des étoiles, parce qu'on arrive à discerner des plutôt orangés, des plutôt bleus.
Mais sur Orion, c'est frappant.
Ouais, voilà, par
exemple. Avec Rigel et Bételgeuse. Il y en a une qui est orange, l'autre qui est bleue, on va dire.
Au début, on voit un peu tout pareil, mais à force, on arrive à discerner des couleurs quand même.
Aldébaran dans le Taureau, c'est clairement rouge.
Ouais. Capella aussi, le Cocher.
Sirius, elle scintille fort. Elle est toujours, je trouve, elle est...
Mais ça, c'est l'atmosphère. Quoi. En plus, elle est basse sur l'horizon.
Ah ouais, ok.
Et elle est très brillante, donc ça scintille.
Ok.
Et donc, à mesure que la nuit va s'avancer, vous allez avoir le lion qui va commencer à prendre la place d'Orion, en fait, et à bien dominer le ciel.
Ça sent le printemps, ça.
Ouais. Donc, le lion, puis bon, entre les deux, entre le Gémeaux et le lion, il y a le Cancer. Constellation assez faible, le Cancer. Pas forcément. C'est pas. Pour moi, c'est pas la constellation à repérer en premier, quoi.
C'est pas flagrant.
Non. Le flagrant, il faut vraiment savoir où il est. Effectivement, on voit cette espèce de triangle avec un autre triangle. Et puis au centre, c'est l'amas de la crèche, si ma mémoire est bonne. Qui est très. Donc, petite tache floue aussi, là, au milieu de ce mini triangle intérieur au Cancer.
Étoile bleue et jaune,
ouais. C'est beau, l'amas de la crèche. Et donc, vous avez le lion. Alors, là, on va passer à la deuxième partie de nuit. Et j'avais envie en fait, de vous parler de ça parce que c'est aussi lié à une petite expérience que moi j'ai faite cette semaine. Là, j'observais le ciel, au milieu de nuit. Et d'un coup, je vois Hercule, je vois Ophiuchus en dessous, et puis je vois trois petites étoiles là sous la couronne. Et je me dis, mais c'est quoi en fait ça? Et j'avais pas forcément repéré quoi. Et en fait, c'est la tête du serpent. Et j'avais envie de vous... Là, il y a vraiment un dessin dans le ciel. Quand vous, donc là, maintenant, la Grande Ourse, à cette heure-là, elle est bien visible. Elle est bien, bien au nord, elle est quasiment au zénith,
c'est quoi,
en fait.
C'est milieu de nuit, minuit
ou... Ouais, à partir de... Deuxième partie de nuit, en fait. Deuxième moitié de nuit.
Ok. Donc après minuit, quoi.
Ouais.
La casserole, elle est bien verticale.
Là, vous avez la casserole qui est bien... Et là, je vais vous parler d'un alignement qui est quand même assez intéressant, moi, je trouve. Déjà, c'est d'avoir l'idée que le lion, en gros, il est sous la Grande Ourse. Déjà, de visualiser ça, c'est un bon repère, quoi. C'est-à-dire, la Grande Ourse, on a l'habitude de la voir, cette casserole, mais le lion, il est pas collé, hein. Mais en fait, dans le ciel, sous le lion, sous la Grande Ourse, vous avez vraiment le lion. Donc le lion dont j'ai parlé, qu'on a déjà bien observé. Maintenant, vous prenez cette Grande Ourse, et donc ça, c'est un alignement classique. Vous avez le manche de la casserole. Ce manche, il fait une courbe. Donc si vous prolongez cette courbe, si vous prolongez cet arc, et bien vous arrivez sur une étoile très brillante qui s'appelle Arcturus, qui fait partie de la constellation du Bouvier. Cette étoile-là, donc le Bouvier, ça ressemble à une espèce de petit cerf-volant. Bon. Si vous allez un peu au nord et à l'est de cette étoile, vous allez tomber sur un demi-cercle qui est très visible, qui s'appelle donc la Couronne, avec son étoile centrale assez brillante qui s'appelle Margarita. Donc ça aussi, c'est bon. Là, on arrive presque sur du ciel d'été, en fait. Hein, sur du ciel d'été de début de soirée, quoi.
Ouais, exact. Ouais. Cette couronne, elle est assez visible aussi, parce qu'elle fait vraiment une spirale.
Elle est complètement claire.
Ouais, ouais.
Il y a vraiment un demi-cercle, même un peu plus que demi.
Ouais, je trouve cette spirale un peu. Mais...
Qui est là. Et donc, si vous prenez Arcturus et vous prenez l'étoile centrale de la couronne, la plus brillante, Margarita, et vous prolongez ça, vous tombez, en fait, sur le H d'Hercule. Alors, il se trouve que voilà, Hercule, c'est Héraclès, hein, donc c'est toute la mythologie autour des 12 travaux d'Hercule, etc. Il se trouve que c'est un H, donc c'est facile pour nous, puisque H, Hercule, voilà. Et donc là, en fait, c'est vraiment entre la Grande Ourse, vous prolongez cet arc, vous tombez sur Arcturus, ensuite vous avez la couronne et vous arrivez sur Hercule. Là, vous avez déjà un joli dessin du ciel. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sous Hercule, vous avez ce qu'on appelle donc Ophiuchus, ou le serpentaire. Et en fait, quand vous regardez, là, l'autre soir, je regardais, et vraiment, ça fait vraiment comme si le haut d'Ophiuchus, c'était une sorte de marchepied, quoi, pour Hercule, comme s'il s'appuyait dessus. Et en bas à droite, il y avait ces trois petites étoiles, donc sous Hercule, sous la couronne, et en fait, qui est la tête du serpent. Donc, Ophiuchus, j'avais envie de parler un peu de lui. Et des légendes qui sont associées. En fait, Ophiuchus, c'est Asclépios. Asclépios, c'est le dieu de la médecine chez les Grecs. Alors, cette constellation, elle est assez intrigante de par sa forme. Elle a une espèce de côté un peu... une sorte de... C'est un peu rond en dessous, un peu carré en haut. C'est une espèce de géométrie un petit peu bâtarde. Et elle est traversée donc par le serpent, qui a une partie à l'est et une partie à l'ouest. Et en fait, alors les Égyptiens avaient déjà identifié cette constellation. Pour eux, c'était Ra, donc le dieu soleil, sur une barque.
Ah oui.
Donc quand même une certaine puissance quand même, c'est pas n'importe quoi. Et là, les Grecs, eux, ils y ont mis Asclépios, donc le dieu de la médecine. Et l'idée donc de Ophiuchus, c'est le serpentaire, c'est-à-dire qu'il a attrapé le serpent. Donc la tête du serpent là, et donc le serpent en fait, il est assez grand, il va de la couronne jusqu'à l'aigle. Là, ça nous connecte vraiment au ciel d'été pour le coup. Mais on voit en fait, hein, en fin de nuit, on le voit le triangle d'été. On voit le début en tout cas. Je ne sais pas si on va jusqu'à Deneb, mais en tout cas.
C'est incroyable parce qu'en plus, Deneb est visible au coucher du soleil.
Tu la vois ?
En plein ouest.
Ouais.
Et on la retrouve en fin de nuit à l'ouest.
Donc ça, c'est toujours rigolo quoi, de boucler comme ça. Et du coup, de voir ces zones de transition entre les deux où on n'a pas forcément l'habitude de voir justement là où ça bascule un peu entre le printemps, entre l'hiver et le printemps, puis entre le printemps et l'automne. Des fois, il y a des moments où on observe ces zones qui font un peu la jonction entre les ciels des différentes saisons, quoi. Et là, je trouvais que c'était le cas, en fait, de pouvoir vraiment voir toute la suite. Et donc Ophiuchus, à la base, c'est Asclépios. Alors Asclépios, c'était, on va dire, le premier médecin chez les Grecs. Donc la légende, elle dit qu'il avait, assommé un serpent. Il le tenait entre ses mains, donc d'où la constellation, en fait. Et qu'en fait, il a vu un autre serpent venir donner des herbes à celui qu'il avait assommé pour le ranimer. Et que c'est de là, en fait, qu'il a commencé à fonder sa médecine basée sur les plantes, sur tout ça, et la connaissance des plantes, etc. Donc j'ai trouvé ça...
C'est un beau symbole.
Ouais, assez intéressant d'imaginer ça. C'est cet homme qui est en quête de connaissance quand même, qui assomme un serpent, bon, pourquoi faire, j'en sais rien, et un autre serpent qui vient soigner son collègue. Et l'autre, ça lui donne l'idée, en fait, de rechercher dans les plantes pour soigner les hommes, quoi.
Finalement, c'est observer la nature et s'inspirer d'elle, ouais.
Donc j'avais trouvé ça chouette et j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà ce que j'avais envie de dire sur le ciel ce soir. J'espère que ça vous donnera envie. Franchement, procurez-vous, si ce n'est pas déjà le cas, une carte du ciel en carton, c'est encore mieux que les cartes toutes faites là. Et vous pouvez vraiment faire tourner le ciel et voir ce qui est réellement visible. En fonction de l'heure et en fonction du lieu où vous êtes, voilà.
On peut vraiment se repérer facilement avec ces cartes-là.
Ouais, et c'est quand même ça, je pense, le premier apprentissage du ciel, c'est de regarder les constellations, de les apprendre, de les voir tourner, de se faire une idée de la sphère céleste,
de s'y repérer, voilà. Chaque saison.
Et, voilà, c'est des choses dont on a déjà parlé, mais.
Et je trouve une frontale avec une lumière rouge.
Ouais.
C'est bien aussi pour lire la carte en pleine nuit et pas.
Ah ben ça oui.
C'est aussi assez indispensable aussi.
Et justement. Il faut surtout pas de vous éblouir en fait. Et donc c'est pour ça qu'en astro on utilise toujours des lumières rouges qui n'éblouissent pas et qui permettent quand même de voir la carte. Sinon si vous rentrez chez vous, il vous faut à nouveau 5 minutes, au moins 5 minutes pour réaccoutumer vos yeux à l'obscurité et pouvoir voir un peu le ciel de façon fine. Donc le lampe rouge, ouais, c'est une bonne remarque, Pierrick. On va arrêter là. Alors, on va faire une petite pause musicale. Cette semaine, on va passer un morceau de Jimi Hendrix qui s'appelle Axis Bold as Love. Ce sera l'occasion de rappeler que le générique de l'émission, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est aussi Jimi Hendrix, un morceau de son premier album qui s'appelle Third Stone from the Sun. Donc, littéralement, la troisième pierre en partant du soleil et donc la Terre. Bon morceau, à tout à l'heure. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready. But wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yes. They're all bold as love. Yeah. They're all bold as love. Just ask the Axis. Confident he flashes trophies of war and ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a he knows everything. Yeah, yeah, yeah. Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA 107.5. C'est donc Axis Bold as Love de Jimi Hendrix. Et on va maintenant reprendre le déroulé de l'émission avec toi, Pierrick, qui est ta chronique spatiale. Tu vas nous parler de Pluton et de la sonde New Horizon.
New Horizon.
Yeah. Ouais.
Et ouais, je vais vous parler de cette sonde qui est partie en direction de Pluton en 2006. Et Pluton, c'est quoi Pluton ? C'est une petite planète. Alors, c'est plus une planète maintenant.
Ils l'ont déclassé. Ils ont déclassé Pluton. Moi, personnellement, je trouve ça inadmissible. Mais bon, passons.
Seule planète trouvée par les Américains. En plus,
non, mais bon. Enfin...
Donc, elle a été découverte dans les années 30. Et elle a donné son nom à Pluto, hein, le chien dans...
Ah ouais, c'est pas Disney, pareil.
Ouais, ouais. Bon, voilà. Et c'est quoi Pluton ? Alors, c'est le dieu romain des enfers qui vit dans les Champs-Élysées.
Mais Pluton, monde... c'est Hadès.
Ouais, c'est le...
Oui, c'est le dieu... Oui. Oui, non, mais pardon.
Qui vit dans les Champs-Élysées, le monde souterrain.
Oui, oui.
Et juge les bons et les mauvais. Et les bons, ils vont aux Champs-Élysées, et les mauvais, ils vont dans le royaume des Tartares. Là.
Ouais, l'enfer, quoi.
Voilà. Et sinon, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, je sais pas, mais... c'était aussi le dieu de la richesse pour les Grecs. Quand on le traduit littéralement, apparemment, c'est le dieu de la richesse. Bon, on peut faire un lien ou pas, comme on veut.
La plutocratie. Plutocratie, en grec, c'est le gouvernement des riches.
Ah oui.
Rien à voir avec ce qu'on vit actuellement.
Merci, Fred. Et donc, New Horizon, c'est la première mission vers Pluton. Donc, c'est pas évident à mettre en œuvre parce que c'est très éloigné du Soleil, donc de sources d'énergie. Donc, ils ont dû passer par un générateur thermonucléaire là, qui produit sa propre énergie. Et, il faut une isolation thermique très renforcée parce qu'il fait très froid et qu'il faut que tous les instruments y soient protégés. Donc voilà, et elle a mis 9 ans de transit pour arriver jusque là-bas. Donc voilà, un petit topo. Et elle a fait que survoler Pluton. En fait, elle est passée devant. Elle a pris 2-3 photos, regardé la géologie, la température, la structure, la composition, etc. Et elle a continué sa route. Alors, pour arriver là-bas, elle s'est aidée de l'assistance gravitationnelle de Jupiter. Donc, je répète un peu, mais l'assistance gravitationnelle, c'est quand une sonde passe à proximité d'une planète et profite de l'attraction de cette planète, ce puits gravitationnel, pour accélérer, passer à proximité et se dévier et accélérer et aller ailleurs, quoi. Donc, c'est très utilisé dans les sondes spatiales qu'on envoie. Et donc, voilà, elle s'est servie de Jupiter. Au passage, elle a pris des très belles photos de Jupiter. Et voilà. Et alors, quand ils l'ont, au début de la mission, quand ils l'ont envoyé, enfin, je suis un peu à l'envers, mais en tout cas, quand ils l'ont envoyé, ils avaient une fenêtre de tir extrêmement courte, de 2 heures par jour, du 17 au 29 janvier 2006. Donc en fait, c'était très très ciblé, parce que sinon, la Terre n'était pas dans le bon endroit, enfin, ça allait pas. Et donc, selon les conditions météo, c'était pas évident du tout. Bon, ils ont quand même réussi à le lancer. Donc, elle est partie, elle a passé Jupiter. Et là, ils l'ont mise en hibernation. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment tout éteint les systèmes. Ils ont juste laissé un système de survie, enfin de surveillance, on va dire plutôt. C'est soit, ils envoyaient des messages à la Terre, c'était soit 1, soit 0. C'est-à-dire que 1, il y a un problème, 0, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, il l'a réveillé ou pas. Bon, il se trouve qu'ils l'ont quand même réveillé 17 fois pour voir si tout allait bien. Mais en tout cas, voilà. Et pendant sa phase de transit, ils ont quand même dû avoir une correction de trajectoire pour compenser la poussée des photons émis par le RTG, là, le générateur thermonucléaire. C'est quand même fou, ça. Le générateur, il devait émettre un peu de lumière et des photons, du coup. Et du coup, cette émission de photons a décalé un tout petit peu la sonde. Et donc, ils ont dû faire une correction de trajectoire pour ça. Donc en 2015, ils la sortent de l'hibernation. Et donc là, voilà, elle va faire un survol de Pluton. Donc là, il faut bien imaginer qu'on est à 4,8 milliards de kilomètres de la Terre. Donc on est vraiment dans les derniers recoins du système solaire. Et qu'elle va aborder le système plutonien, parce qu'effectivement, il y a Pluton et il y a Charon, mmh. qui ont sensiblement le même diamètre. Donc on parle beaucoup de Pluton, mais Charon, elles gravitent ensemble. C'est un système double, avec un centre de tout ça qui n'est pas dans une planète comme nous on tourne au milieu de notre axe quoi en gros. Donc le barycentre de ça il est extérieur, c'est-à-dire que les deux planètes tournent autour d'un centre qui est dans l'espace. Voilà, ça c'est assez particulier comme ça existe hein, mais c'est assez rare.
Ben Charon est toujours dans la mythologie grecque, c'est le passeur du fleuve Styx.
Ouais. Alors le système plutonien, il y a plusieurs satellites, il y a Styx.
La Styx, donc le fleuve qui sépare le monde des morts du monde des vivants. Il y a Nyx. Et Charon, c'était le passeur, passeur okay. des âmes.
Ah ouais. Il y a aussi Nyx, Hydra et Kerberos. Voilà. Et donc la sonde, elle passe et elle prend plein de photos des surfaces de Pluton et Charon. Et elle se rend compte que c'est une surface assez jeune, sans cratère. Parce qu'en fait, depuis la Terre, on ne peut pas observer Pluton. Elle est trop loin. Même avec les meilleurs télescopes, on voit une petite tache floue. On n'a aucun détail presque. Et donc là, on avait du détail. On se rend compte que c'est une surface sans trop de cratères. Faut savoir que Pluton, elle est plus petite que la Lune encore. C'est vraiment c'est des petites planètes, quoi. On se rend compte qu'elle est active géologiquement, qu'il y a des espèces de montagnes de glace, alors de glace de méthane, hein, j'entends, qui font 3 km de hauteur, qui sont inexpliquées pour l'instant, qu'il y a des calottes polaires de glace, de méthane et d'azote, qu'il y a une atmosphère, que la planète est entourée d'une atmosphère, donc une atmosphère d'azote, de méthane, de monoxyde de carbone, qui s'échappe dans l'espace, qui s'en va en fait de la planète par les vents solaires, etc. Et cette atmosphère, elle est sûrement due au fait que Pluton, elle est une orbite elliptique et que donc elle se rapproche du Soleil puis s'éloigne très loin. Du coup, elle chauffe, elle refroidit et ça crée des...
Ça dégaze les roches qui la composent.
Ouais. Et du coup, c'est ça qui crée des atmosphères. Mais ça, c'est... Toutes les planètes ont... Enfin, certaines planètes ont des atmosphères qui se sont créées un peu.
On fera une émission sur les atmosphères parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Mais il y a ce qu'on appelle l'atmosphère primaire d'une planète. Ça va être le gaz qu'elle a capturé en fait, qui est avec elle. Et ce gaz, il va venir principalement en fait justement de gaz qui est emprisonné dans les roches qui composent la planète. On parle de planètes solides là pour les atmosphères.
Oui.
Les planètes gazeuses. Bon. Et en fait, il y a des atmosphères primaires et en plus après ces atmosphères, elles vont évoluer. Alors et vous pouvez aussi avoir une planète qui a capturé du gaz et qui en fait n'est pas assez massive. Par exemple, c'est le cas la Lune, même si c'est un satellite, voilà, ou Pluton, qui sont pas assez massives en fait pour réellement garder une atmosphère. Et donc petit à petit, en fait, ce gaz va s'échapper dans l'espace. Il faut déjà une certaine masse pour garder cette atmosphère. Et après, quand vous avez une planète comme la Terre, où en plus vous avez eu un développement donc d'organismes qu'on va appeler vivants, mais surtout tout ce qui est les arbres, etc., ça a complètement modifié la composition de cette atmosphère. Et là, on arrive dans les atmosphères secondaires,
d'accord.
qui sont en fait dues aussi à la petite vie de la planète. Quoi.
Ok.
Mais il y a vraiment une question de masse.
Voilà. Ouais. Ah oui,
pour garder l'atmosphère. Donc la Lune, par exemple, il n'y a rien parce qu'elle n'est pas assez massive. Quoi.
Elle ne garde pas la pesanteur, elle ne garde pas l'atmosphère. Et Pluton, elle a aussi une orbite extrêmement désaxée par rapport aux autres planètes. C'est-à-dire que toutes les planètes du système solaire tournent sur le même plan, à peu près. Sauf Pluton qui tourne désaxé par rapport aux autres.
Elle est inclinée par rapport au courant de l'écliptique. Ouais. Et en plus, effectivement, elle a une orbite très elliptique. Ça veut dire qu'il y a des moments où elle va être... en fait, ce qui est aplati, ce n'est pas un cercle, son orbite. Donc, il y a des moments où Pluton est plus proche que Neptune.
D'accord. Ah, ouais.
Et d'autres moments où elle est beaucoup plus loin.
Okay.
Mais il y a des moments où elle passe à l'intérieur de l'orbite en fait de Neptune. Donc c'est aussi pour ça qu'ils l'ont déclassée en fait. C'est pour ces raisons-là. D'abord, elle est petite. Ensuite, elle a cette orbite qui est quand même assez bizarre, qui est pas comme celle des autres planètes. Et du coup, ils ont décidé de la classer dans la ceinture de Kuiper en fait. Donc dans tous les c'est la ceinture de Kuiper, on en a déjà parlé. C'est après Pluton en fait, après l'orbite. Donc ça commence peut-être à 5-6 heures lumière depuis le Soleil. Là, en fait, vous avez tout un tas de résidus du système solaire, en fait, de formation du système solaire. Donc plutôt des cailloux, des poussières, des trucs froids qui orbitent, mais dans un disque quand même, grosso modo. On est toujours quand même dans cette idée de disque autour du Soleil, quoi. Et c'est un peu les restes du disque d'accrétion qui a conduit à la formation du système solaire. Donc ils ont déclassé Pluton en disant, en gros, Pluton c'est un gros astéroïde, c'est pas une planète. Bon, c'est assez discutable en fait, hein, mais ils ont tranché comme ça, effectivement, voilà, bon, c'est comme ça. N'empêche qu'il est là et que lui, il n'a pas changé, quoi. Pluton, ça reste Pluton, on a beau l'appeler planète ou pas, ça reste la même chose, quoi.
Il y a beaucoup de planètes naines dans le système solaire dont on ne parle pas, quoi.
Ouais.
Oui, il y en a pas mal, ouais.
Et y compris dans la ceinture d'astéroïdes. Mm-hmm. Comment elle s'appelle ? J'ai oublié son nom, là. Il y en a une dans la ceinture d'astéroïdes.
Cérès,
celle où on pense qu'il y a de l'eau.
Ouais, Cérès, Vesta, il y en a plusieurs comme ça.
Donc ça, c'est dans... c'est entre... on va dire entre Mars et Jupiter, quoi.
Ouais.
Ok.
Et donc voilà pour Pluton. Donc après, c'est juste, je rappelle, c'est juste un passage, un survol de Pluton. Donc ils n'ont pas le temps de vraiment fouiller les trucs. On apprend plus de choses, mais en même temps, comme on disait la dernière fois, ça soulève encore plein de questions. Qu'est-ce qui se passe là-bas, voilà. Parce qu'on a observé aussi des brumes. Il y a quand même une atmosphère pas hyper dense, mais quand même, il y a des brumes, des nuages de différentes couches. C'est quand même un monde particulier. Et du coup, elle a observé Charon, en passant. Et c'est pareil, on se demande s'il n'y a pas une géologie active, parce qu'il y a des énormes canyons de 6 à 10 km de profondeur. Il y a une région hyper sombre que les gens de la NASA ont nommé le Mordor.
Le Mordor, mais j'ai vu des photos et effectivement, c'est quand même... ça fait pas envie forcément.
Ouais, je trouve ça rigolo. Et là, par contre, apparemment, il n'y a pas d'atmosphère. Et donc, cette petite sonde New Horizon, elle est partie plus loin, et elle est partie photographier Arrokoth. Donc ça, c'est un objet de la ceinture de Kuiper. Donc c'est un gros astéroïde. C'est même une planète binaire à contact. En fait, si vous regardez une photo de Arrokoth, je crois que c'est comme ça qu'on dit, elle a deux espèces de deux boules collées ensemble par un petit bout, quoi. Et c'est une forme bizarre. Et voilà, cette sonde, elle va continuer à explorer la ceinture de Kuiper. Et en fait, ils essayent de chercher des objets à aller voir qui sont à peu près sur sa trajectoire. Donc peut-être dans quelques temps, ils vont aller voir un autre astéroïde qui est perdu là-bas au fond. Et voilà, elle va finir sa vie, je sais pas où, dans l'espace. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit moment autour de Pluton vous a intéressé.
Voilà. Merci à toi, Pierrick, pour ta chronique spatiale. On va maintenant passer à la dernière partie de cet épisode 19. Avec toi, Rémi, et ta chronique sur l'astrophoto, cette semaine, tu vas nous parler du guidage.
Ouais, voilà, on va parler du guidage ou autoguidage. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un procédé, c'est une solution pour améliorer le suivi en imagerie, quoi.
Je rappelle juste quand même le problème de base. C'est qu'on veut faire une photo d'un objet dans le ciel, qui est, d'un petit bout de ciel en fait, et la Terre elle tourne. Et donc nous on est sur la Terre, ça veut dire que si vous pointez votre télescope et que vous ne faites rien, selon le grossissement, mais en quelques secondes ou dizaines de secondes, l'objet sort du champ.
Voilà.
Or toi, tu nous as expliqué plusieurs fois que tu fais des photos sur long temps de pause.
Oui, l'objectif, c'est d'avoir un temps de pose maximal.
Ouais. Donc, il faut compenser la rotation terrestre pour que l'image, d'une façon ou d'une autre, reste au centre du télescope. Mm-hmm. C'est ça la base du problème du guidage.
Voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le ciel circule à l'ordre de 15 degrés par heure. Donc, imaginer que quand on utilise une grande focale, un télescope de 200 par 1000, mettons, qu'on regarde dedans, en l'espace de 30 secondes, une minute, tout le champ aura été décalé, quoi. Donc, l'autoguidage, c'est un procédé pour vraiment garder de la précision de suivi. Et donc, ça s'adresse forcément aux montures équatoriales motorisées et donc à l'imagerie du ciel profond, quoi, avec des grandes focales. On va commencer à autoguider à partir de 100 mm, mettons, objectif photo, ou à partir de 100, 135, 200 mm. Après, ça s'adresse vraiment à des focales de 1000, voire plus. Et donc, ce qui va nous créer les défauts de suivi dans la monture équatoriale, c'est les erreurs de mise en station, notamment. Donc ça nous permet de rappeler la mise en station, qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que la monture équatoriale, donc un trépied qu'on pose au sol, qu'on va orienter vers le nord, donc on va incliner, nous on est à latitude 45, donc il faut imaginer le trépied qui vise à 45 degrés vers le ciel, en direction de la polaire. Et le centre autour duquel nous on tourne, il n'est pas vraiment aligné à la polaire, c'est-à-dire qu'il est juste à côté, de l'ordre de 40 minutes d'arc. Donc c'est quasiment un demi-degré, donc c'est pas négligeable. Et donc dans les montures équatoriales, il y a ce qu'on appelle un viseur polaire, donc c'est une sorte de lunette qui est axée parfaitement avec l'axe de rotation de cette monture, qu'on va venir placer du mieux possible sur ce centre de rotation qui est autour de la polaire. Donc c'est donné, la polaire, on sait qu'à telle heure, elle est tant de degrés d'un côté ou de l'autre, là, du centre. Donc ça se cale par, on tourne des molettes, ça se règle mécaniquement pour que la monture soit vraiment alignée. Et c'est extrêmement difficile d'être précis. On va voir pourquoi. Il y a un degré de précision qui est attendu et auquel on ne peut pas vraiment nous servir. C'est-à-dire qu'on va regarder dans la lunette, on va viser à côté de l'étoile polaire du mieux qu'on peut et on aura toujours quelques secondes d'arc de décalage. Donc ça aura une influence directe sur notre suivi. C'est-à-dire qu'on ne sera pas dans le même centre. Donc ça va être très sévère quand on va observer ou imager au niveau de l'équateur. Ça va l'être vachement moins dès qu'on se rapproche du pôle. Forcément. Donc voilà, la technique d'autoguidage, c'est recueillir une information d'image. Hein, donc on utilise généralement une caméra CCD, une caméra de guidage, qu'on va viser sur une étoile donnée, peu importe où elle se trouve. Et là, on va mesurer la dérive. C'est-à-dire que on va voir dans quelle direction notre suivi il est problématique et donc à partir de là on va attribuer des corrections. Donc c'est là que la monture motorisée rentre en compte, quoi, avec un moteur sur l'axe d'ascension droite. Donc l'axe d'ascension droite, c'est une sorte de projection de l'équateur céleste, qui est une projection de l'équateur terrestre aussi, et l'axe de déclinaison qui est perpendiculaire à cet axe là qui, quand on part de l'équateur, rejoint les pôles. Voilà, et donc l'axe de déclinaison, c'est celui sur lequel on va travailler pour pallier à ce problème de suivi. Donc concrètement, en termes de matériel, un procédé d'autoguidage, c'est avec une lunette en parallèle de l'instrument avec lequel on va imager. Donc il faut imaginer un télescope, un tube, où dessus est fixée une lunette qu'on règle, qui est axée du mieux qu'on peut avec l'optique imageur. Et donc à partir de là, la caméra cible ces étoiles, on passe par l'ordinateur, ça nécessite une connexion à l'ordinateur. Et donc là, on fait une calibration pour voir, voilà, il va envoyer des impulsions en millisecondes, disons, pour corriger la position de la monture. Et en fait, là où ça prend son sens, c'est quand on analyse un petit peu un capteur d'appareil photo. Donc par exemple, un capteur plein format, on va avoir un champ, on avait fait une émission là-dessus, on parlait des différences de champ donc, qui sont exprimées en degrés. C'est une sorte d'ouverture qui nous donne une distance, mais c'est une distance qui est exprimée en degrés. Degrés, minutes, secondes. Donc avec un plein format, sur un, avec une focale de 1000 mm, on aura un champ de 2 degrés horizontal et 1 degré vertical, mettons. Et donc comme ce capteur d'appareil photo, il a autour de 20 millions de pixels, on sait à partir de là que chaque pixel est égal à 1,5 seconde d'arc. Et donc, à partir de là, on sait que si on a des défauts de guidage au-delà de 1,5 seconde, là, les étoiles vont être déformées, elles vont être floues, on peut avoir de la traînée. Donc l'autoguidage, il est vraiment là pour optimiser la netteté de l'image, avoir un suivi parfait, comme si on faisait une pause longue sur un objet qui ne bougeait pas. Donc c'est là tout l'intérêt d'optimiser le suivi sur monture équatoriale en utilisant ces techniques d'autoguidage.
Et ça n'existe pas sur les montures Dobson.
Non. Disons que les montures Dobson, il y en a qui ont des moteurs électriques qui permettent un suivi. Et donc du coup, il y a deux axes à corriger en même temps. L'axe horizontal, azimutal, ce qu'on appelle, et l'axe d'altitude. C'est assez grossier comme suivi, disons.
D'accord.
C'est plus pour du confort visuel, en fait, sur les Dobson, pour ne pas avoir, pour pouvoir observer un objet et qu'il reste dessus. Donc, si tu veux observer toi tranquille sans avoir à bouger, ou si tu veux faire une démonstration et faire regarder les gens dans le télescope, c'est pratique. Mais c'est pas suffisamment précis pour faire réellement de la photo piquée. Quoi.
Ouais. Ah, okay. Dès qu'on passe, par exemple, plus concrètement, avec une monture équatoriale motorisée classique, un tube de 1000 de focale, on va pouvoir tenir 30 secondes, entre 30 et 40 secondes, avant que. On est défilé avant que l'image elle se déforme progressivement. Si on veut faire des pauses de 5 minutes, il faut passer par un dispositif de guidage. C'est inévitable. Donc, parce que la monture elle-même, elle a des engrenages mécaniques. Donc, faut imaginer des cascades de pignons, des choses comme ça. Il y a des montures de bonne qualité qui travaillent avec des courroies. Donc, on évacue un peu tous les jeux, tout ça. Il y a un problème de vitesse de suivi souvent, ce qu'on appelle l'erreur périodique. Chaque monture elle a son erreur périodique propre à elle-même, qu'on peut mesurer facilement. Il peut y avoir du vent, il peut y avoir... Donc tous ces problèmes se règlent avec une lunette qui nous situe, qui nous dit où on est, où on va, et qui permet de recueillir les informations et de donner des corrections. Donc en fait, ça s'observe comme un graphique, c'est des courbes. On a une étoile, on ne veut pas qu'elle bouge. On prend des images de 1 seconde, toutes les secondes, 2 secondes, toutes les 3 secondes, suivant les bons réglages. Et là, on voit, l'étoile, elle est partie de 1 seconde d'arc à gauche, 1 seconde d'arc en haut. Et donc là, les moteurs vont renvoyer des petites impulsions. C'est très léger, hein, c'est très minime. Mais du coup, une fois que l'autoguidage fonctionne bien, c'est hyper satisfaisant parce que on est vraiment en osmose, en harmonie avec le mouvement. Et l'image est vraiment très nette, quoi. Ça nous permet de pouvoir profiter au maximum de l'image qu'on est en train de faire. Donc voilà, qui est pour l'autoguidage. Et donc, il y a une autre technique qui est souvent utilisée en parallèle. Une fois qu'on a mis en œuvre tous ces moyens pour avoir un suivi le plus parfait possible, généralement un bon suivi c'est autour d'une demi-seconde d'arc. Donc il faut savoir que des secondes d'arc dans un degré, il y en a 3600. Donc c'est même pas du dixième, du centième. Enfin, là on va chercher dans.
C'est précis. Quoi.
Derrière les décimales, ouais. Donc un guidage à une demi-seconde d'arc, normalement on n'a pas de problème de filet d'étoiles. De flouter ou quoi que ce soit. Et donc une technique additionnelle qui s'appelle le dithering. Alors dithering, c'est en anglais, ça veut dire un peu tremblement, vibration, c'est un terme qui est vachement utilisé en audio aussi. Et en fait, c'est une technique toute bête qui consiste à décaler un tout petit peu de quelques pixels l'image qu'on est en train de photographier, entre 10 et 15 pixels, mettons. Donc c'est très fin, si on fait défiler les photos, on voit qu'elle est un tout petit peu décalée. Et en fait, ça va nous servir principalement après pour les techniques d'empilement, donc qu'on avait vu à la dernière émission, pour effacer tous les défauts. C'est-à-dire que les défauts de capteur vont apparaître toujours au même endroit, mais le signal, la cible, elle va être décalée de ces quelques pixels. Et donc ça va donner encore une information supplémentaire pour l'empilement, pour rejeter les défauts. Voilà, et de faire ça aussi, ça évite d'avoir ce qu'on appelle des trames. Les trames, c'est des sortes de lignes un peu horizontales, verticales, qu'on peut retrouver des fois sur les écrans, sur des choses comme ça, qui sont dues à un grand nombre de photos qui sont exactement la même, qui n'a pas bougé. Et du coup, après, à l'empilement, ça fait apparaître ces défauts-là. Donc le dithering, c'est une bonne technique pour encore purifier le mieux qu'on peut la prise de vue, quoi. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. C'est intéressant à mettre en place, c'est un peu fastidieux au début. Donc il faut... Voilà, c'est une connexion informatique à la monture, ça. Enfin, on met un pied encore dans autre chose, quoi.
Ça se fait pas avec les smartphones, maintenant?
Ben, maintenant, il y a des boîtiers, c'est-à-dire que soit on passe par un ordinateur classique, soit... là, il y a des marques
portable,
qui...
Portable, tu veux dire.
Ouais, ouais. Portable. Maintenant, il y a des marques qui proposent des boîtiers où c'est des petits ordinateurs embarqués.
Dans le télescope.
Voilà, qui est fixé au télescope. Ouais, okay. Là-dessus, on connecte la caméra de guidage, la caméra imageur, la monture, tout ça. Après, ça retransmet en Wi-Fi, on te contrôle par tablette, tout ça. Bon. C'est un peu l'informatisation clé en main, disons.
Ouais.
C'est cool, mais je ne conseillerais pas de commencer par ça, parce que niveau sensibilité...
sensibilité, ou comprendre un peu ce qu'on fait, ou les réglages, ou tout ça, c'est pas, ça fait boîte noire, quoi.
Ouais, voilà. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à gratter cette histoire d'autoguidage, parce que c'est ce qui permet de faire des pauses longues, et c'est à partir du moment où on a des pauses longues que là, il y a beaucoup de signal qui arrive.
On peut collecter beaucoup de lumière et faire de belles images d'objets faibles, lointains.
Voilà, ouais. Il y a des choses qui apparaissent qui peuvent pas apparaître avec 30 secondes de pause, quoi. Voilà, donc c'est un bon procédé qui est assez illustratif de la mécanique céleste aussi. Et nous, sur notre planète, sur notre sol, on essaie de s'aligner, on fait une mise en station aux petits oignons, comme on dit, qui est elle est du mieux qu'on peut, mais forcément, on n'aura jamais un résultat parfait. Donc, c'est une technique qui est additive, disons, quoi. Et un peu addictive aussi.
C'est beaucoup de géométrie dans l'espace, en fait, pour voir un peu. En fait, on s'axe par rapport à quoi, les lignes imaginaires, elles vont où, etc.
Et c'est hyper intéressant parce que dans le viseur polaire d'une monture équatoriale, il y a des différences qui sont données par les années. C'est-à-dire que là, on se rend compte directement que le ciel change à long terme. Le centre polaire, il y a plusieurs milliers d'années, il n'était pas du tout à côté de l'étoile polaire. Il était à côté de Cassiopée et tout ça, ça va encore changer.
Oui.
Donc nous, notre position par rapport aux étoiles de la Voie lactée, elle change en permanence. Donc c'est des données à prendre en compte lors de l'alignement. Voilà.
Mais merci à toi. C'est sûr que l'astrophoto, c'est beaucoup d'aspects très très techniques qui demandent quand même de la pratique. Et voilà, moi je pense à ça parce que je me dis vraiment, j'ai hâte qu'on puisse ouvrir ce club là dont on parle tout le temps, pour que les gens qui ont envie de s'initier à cette pratique puissent venir te voir. Parce que c'est quand même, ça demande un vrai savoir-faire, quoi. Là,
C'est pointu. Hein. Ouais, déjà, rien que régler un télescope bien propre, comme tu disais.
Voilà, déjà, utiliser un télescope, c'est pas forcément évident. Ouais. L'astrophoto, c'est encore un degré de plus. Après, il y a tout un tas de gens dans la pratique astronomique qui sont réellement passionnés par ça, dont toi, et c'est bien, quoi. C'est chouette, et ça fait vraiment des images qui sont... Enfin, moi, je trouve que les images que tu fais par rapport à... Quand on les illustre, les podcasts, les choses, c'est très beau. Quoi. Et ça, toi, c'est pas ton métier, c'est pas un truc, voilà,
non,
tu fais ça tout seul. Donc, c'est possible aussi d'obtenir des satisfactions, je trouve, en astrophoto, pour des gens que ça passionne vraiment, avec du matériel qui est pas non plus délirant.
Ouais, voilà, c'est du matériel amateur, c'est des connaissances amateurs.
Voilà.
C'est ça qui est super cool, quoi.
Donc on rappelle hein, qu'on est toujours en recherche d'un lieu pour accueillir le club. Alors c'est sûr qu'avec un couvre-feu à 18h pour ouvrir un club d'astro, c'est pas l'idéal en ce moment. Mais voilà, donc vous pouvez toujours nous contacter. Je rappelle l'adresse mail de l'émission astro-rdwa@protonmail.com. On va en rester là pour cette semaine. On vous souhaite de belles observations du ciel et à la prochaine fois. Au revoir.